Voilà, nous lisons dans Actes 16, 31. Actes des Apôtres, chapitre 16. Actes des Apôtres, 16, verset 31. Il est écrit ceci. Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Nous lisons aussi dans Josué 24, 15. Josué 24, 15. C'est Josué qui parle au peuple d'Israël. On peut commencer au verset 14. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc nous avons pris ces deux passages qui nous montrent une relation entre notre salut et le salut de notre famille. Actes 16, 31 dit, crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et là, Josué dit, vous faites ce que vous voulez, mais moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Donc Josué a considéré qu'il était de son devoir d'amener sa famille à servir le Seigneur, à servir l'Éternel. Donc le Seigneur, notre Dieu, utilise la famille pour faire passer ses bénédictions. Et nous connaissons Exode 20 au chapitre, au verset 3 à 6, qui dit que il n'y a qu'un seul Dieu qu'il faut adorer et ceux qui font autrement, ceux qui adorent les images, adorent les statues et autres, eh bien, ils vont subir une malédiction jusqu'à la quatrième génération et ceux qui font le bien vont avoir des bénédictions jusqu'à la millième génération. Donc on voit l'intention de Dieu qui est de répandre sa bénédiction en utilisant la famille, parce que jusqu'à la millième génération. Donc c'est de notre responsabilité, si nous nous considérons comme sauvés, c'est de notre responsabilité de travailler au salut de notre famille. Nous devons à chaque fois nous souvenir de ces passages-là. Crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et le Seigneur, aujourd'hui encore, nous rappelle ça. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est très important. Et cette année, nous avions consacré cette année à la prière pour nos familles. Donc on avait dit en début d'année de l'année passée que cette année, nous allons multiplier des prières pour le salut de chaque membre de notre famille. Et nous autres avons atteint un certain âge où nous entendons par-ci, par-là les gens que nous connaissions si bien mourir. Et parfois nous regrettons, mais ah, si j'avais fait le travail de parler comme il faut de Jésus à cette personne. Parce que quand on dit famille, nous élargissons ça aux amis, aux connaissances. Et cette année, on avait dit, il faut qu'on prie pour chaque membre de nos familles, qu'ils puissent se convertir et entendre qu'un tel est mort. Même parfois, il ne fait pas partie de ta famille, mais quand on entend qu'il y a des morts à gauche, à droite, ça fait mal de se dire que ces gens-là ne sont pas sauvés. Est-ce qu'on leur a apporté la parole ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait connaître le Seigneur à eux? C'est vraiment notre responsabilité à nous de porter nos familles dans la prière et de travailler dans la prédication, dans l'exhortation, dans l'annonce de l'évangile pour que chaque membre de notre famille se convertisse. Il y a aussi un travail de sacrifice qui nous sera demandé, un travail d'exemplarité. Celui qui doit être exemplaire, c'est celui qui va se sacrifier le plus. Voilà aussi le poste que nous occupons. Ce n'est pas facile, parce que les gens, quand ils voient bien que nous voulons imiter Jésus, ils en profitent pour, entre guillemets, nous marcher dessus. Mais ça fait partie du processus de salut, ça fait partie du travail de semence pour qu'on récolte quelque chose d'excellent, le salut de nos bien-aimés. Et nous devons considérer l'amour de Dieu pour chaque humain. Lorsque nous disons, nous prions pour les membres de nos familles, Dieu n'aime pas que les membres de nos familles, il aime tous les humains. Si nous parlons de nos familles, c'est parce que Dieu a mis un amour minimum, un amour naturel en nous concernant les gens avec qui nous avons grandi ensemble, concernant nos parents, concernant nos enfants. Cet amour naturel, Dieu veut s'en servir pour nous rappeler de prier et de travailler pour le salut de membres de nos familles. Mais en réalité, ce qui importe pour Dieu, c'est le salut de l'homme. Aujourd'hui, nous parlons de la famille, mais pour Dieu, chaque homme est précieux à ses yeux. Il veut sauver tout homme. Il est écrit dans 1 Timothée 2:4. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et arrivent à la connaissance de la vérité. Il veut sauver tout homme, mais il ne s'impose pas. C'est ça le problème. Il veut sauver sans s'imposer. Parce que le vrai amour ne s'impose pas. Le vrai amour est un échange volontaire. Et c'est comme lorsqu'on est malade, aucune loi nous impose de nous soigner. Donc même si l'État, le gouvernement veut nous voir en bonne santé, il ne s'imposera pas pour nous soigner. Aucun médecin ne s'imposera pour te soigner, sauf lorsqu'on se retrouve dans un état où on ne peut plus décider. Ce qu'on parfois on appelle l'acharnement thérapeutique, ça, c'est la personne ne peut plus décider. Mais quand on peut décider, personne ne nous imposera de nous soigner. C'est la même chose. Dieu, même s'il veut sauver tout homme, mais il ne va pas imposer ça. C'est quelque chose de personnel. Chacun doit choisir. C'est pourquoi Jésus a dit, choisissez qui vous voulez servir. Moi et ma famille, nous servirons le Seigneur, l'Éternel. Donc c'est un choix à faire, mais nous pouvons faciliter ce choix à travers nos prières. Parce que le cœur de l'homme est dur. Parfois, il faut une action, même pas parfois, il faut à chaque fois une action puissante de Dieu pour toucher le cœur de tout homme. Et les mécanismes de l'action du Seigneur sont... Nous ne comprenons pas tout à 100%, mais ce qu'on en comprend, ce qu'on comprend un peu de cela, c'est que il utilise l'amour des autres, des humains pour leurs congénères, pour sauver. Donc Dieu, il se sert de nos prières, il se sert de notre travail pour sauver les autres humains. Donc on a un rôle à jouer, même si c'est un petit rôle, mais il est là quand même. Et nous devons jouer ce rôle-là. Mais nous nous retrouvons souvent face à une difficulté. D'ailleurs, je crois que même quand on a dit qu'on consacrait cette année à prier pour les membres de nos familles, je crois que si on est vraiment honnête, on se rendra compte que parfois on a 5 frères et 2 sœurs, mais on a prié que pour 3 vraiment et 1. Et on a oublié 3, peut-être parce qu'ils étaient... méchants, ou bien ils sont... on a eu des problèmes dans le passé. On va beaucoup plus prier pour les gens qui, les membres de famille avec qui, bon, on se comprend plus ou moins, mais ils ne sont pas encore sauvés. Et nous voulons aujourd'hui expliquer que chaque humain a du prix aux yeux de Dieu. L'amour de Dieu n'est pas conditionnel. Ce qui nous empêche d'être fervents dans la prière, ce qui nous empêche d'être persévérants pour porter les autres dans la prière, c'est que, à un moment donné, nous sommes rattrapés par la méritocratie, par le fait que on veut que les gens méritent l'amour. Mais l'amour, ça ne se mérite pas. Et on priera beaucoup plus pour quelqu'un qui a déjà plus ou moins un comportement correct, même s'il n'est pas encore sauvé. On priera moins pour une personne qui paraît méchante et rebelle. En nous, il y a un schéma de mérite. Et c'est ce schéma-là qu'il faut détruire. Dieu n'use pas de ce schéma-là. Dieu nous aime parce qu'il est amour. C'est ça qui est important à comprendre. Afin que nous ne soyons pas limités dans notre façon de prier pour les gens qui nous entourent, pour les membres de nos familles. Beaucoup n'ont pas prié comme il faut parce que leur cœur est blessé ou choqué par quelque chose. Et parfois, nous sommes choqués par l'hypocrisie des gens. Quand nous sommes en face des gens hypocrites, on a du mal à prier pour eux. On les décrète méchants et indignes du salut. Et c'est très dangereux parce que Dieu nous a sauvés pour que nous soyons des canaux pour le salut des autres. C'est très important de comprendre ces choses-là. Nous connaissons une histoire dans l'Ancien Testament où Dieu avait envoyé un prophète qu'on appelle Jonas aller prophétiser la destruction de la ville de Ninive. Et Jonas a refusé et il a pris une embarcation pour aller très loin pour fuir Dieu. Or, c'est Dieu qui a fait les cieux et la terre, on ne peut pas le fuir. Et il s'est fait que, finalement, il y a eu une grosse tempête. Et lui-même s'est dénoncé auprès de l'équipage pour dire, « Balancez-moi dans la mer, comme ça la tempête se calmera, parce que cette tempête est envoyée par mon Dieu, parce qu'il m'a donné une mission, et moi je n'ai pas honoré sa mission. » Et quand Jonas a été jeté dans la mer, la tempête s'est calmée, Jonas s'est décidé d'obéir à Dieu, d'aller annoncer aux habitants de Ninive la destruction de leur ville à cause de leur péché. Et quand il a annoncé la destruction de Ninive, les gens de Ninive ont eu la crainte de Dieu, ils se sont humiliés, ils ont demandé pardon et Dieu les a sauvés. Alors ça a énervé Jonas, c'est ce que nous allons lire dans Jonas. Nous prenons le livre de Jonas. Jonas au chapitre 4. On peut commencer au chapitre 3, verset 5. Les gens de Ninive crurent à Dieu et ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication, par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, le bœuf et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leurs mauvaises voies et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. » Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Cela déplut fort à Jonas, et il fut irrité. Il implora l'Éternel et il dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas que je dis ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays ? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté et qui te repent du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » L'Éternel répondit, « Fais-tu bien de t'irriter ?» Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il voie ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui rongea le ricin et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient et le soleil frappa la tête de Jonas, au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit, « La mort m'est préférable à la vie. » Dieu dit à Jonas, « Fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin ?» Il répondit, « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » Et l'Éternel dit, « Tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître. » Qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit? Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. Voilà ce que Dieu dit à Jonas. Toi, tu as pitié d'un arbre qui est né en une nuit, qui meurt en une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié des hommes que moi j'ai créés. Des hommes qui se perdent, qui ne savent distinguer leur droite de leur gauche. Notre exhortation, c'est faire attention à ce que le mauvais comportement des gens des membres de nos familles nous empêche de prier pour eux. Parce que leur comportement nous apporte de la colère, nous apporte la déception, on est déçu parfois. On est étonné, surpris. Et ça crée un blocage. Parce que dans notre esprit, il n'y a que l'idée du jugement, il n'y a plus l'idée de salut. Or, Dieu nous a mis à part pour le salut des autres et non pas pour leur jugement. Le jugement lui appartient à lui tout seul. Nous nous sommes mis à part pour le salut. C'est vrai que nous sommes des humains. Et nous sommes parfois choqués par le mauvais comportement des uns et des autres. Mais, et surtout quand ça vient des proches, des gens de la même famille, on est davantage choqués parce qu'on s'attend à ce que son mari, sa femme, ses enfants, les gens qui nous entourent soient encore plus gentils envers nous, soient encore plus à notre image que les gens qui sont loin. Ce qui fait que souvent, facilement, nous pardonnons aux gens qui sont loin, mais nous avons du mal à pardonner aux gens qui sont près parce qu'on considère que les liens que nous avons a été trahi, bafoué par leur comportement. Et on est beaucoup plus sévère envers les gens qui nous entourent. Et ça peut créer des blocages. Vous savez, il y a des parents qui ont maudit des enfants sans s'en rendre compte à cause de la colère. Il y a des enfants qui se sont maudits eux-mêmes en ayant un comportement lié à la colère, mais un comportement d'irrespect vis-à-vis des parents. Et ils se sont maudits sans que les parents même les maudissent. Mais la colère, vous savez, on est très sévère envers les gens qui nous entourent. Or, Dieu avait mis cet amour naturel, familial, pour qu'on soit moins sévère et qu'on continue à porter les membres de nos familles. Et là, nous voyons l'exemple de Jonas qui sentait bien que Dieu risquait de pardonner les gens de Ninive. Alors, il ne voulait pas y aller prêcher. Et effectivement, quand Dieu a pardonné, ça déplut à Jonas. Nous voyons les limites de l'homme. Nous sommes limités dans notre conception de l'amour. Nous devons changer de conception par rapport à l'amour. L'amour, ça ne se mérite pas. Attendre que quelqu'un soit bon pour l'aimer, ce n'est pas biblique. L'amour véritable aime les mauvais. Mais ce n'est pas humain, mais c'est spirituel, c'est biblique. Dieu seul peut nous donner cette capacité-là. Parce que c'est comme ça que lui, il a fonctionné avec nous. Il nous a aimés alors qu'on était mauvais. C'est ce qui est écrit dans Romains 5, 8. Romains 5, 8. On commence par le verset 6. « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des mauvais, pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, c'est-à-dire des ennemis de Christ, Christ est mort pour nous. Donc il n'est pas mort pour nous quand on a accepté de l'écouter. Il n'est pas mort pour nous quand on a donné une impression positive vis-à-vis de son message. Il est mort pour nous alors qu'on était encore ennemis de Dieu. Ce qui nous montre que l'amour véritable ne se mérite pas. C'est un cadeau gratuit. Alors, notre frère Matthieu nous dit dans Matthieu 5, « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait, lui qui fait luire son soleil sur les bons et les mauvais. » Donc, que les mauvais comportements des membres de nos familles ne nous empêchent pas de prier pour eux. Donc, on s'écarterait de la nature divine. On s'écarterait de l'amour de Dieu. Je sais qu'on reçoit des coups. Parfois, on est escroqué. Parfois, on est déçu. Parfois, on est rabroué. Parfois, son mari ou sa femme t'a crié dessus, injustement. Mais je sais que notre chair est souvent blessée, choquée, mais bien aimé, ce n'est pas une raison pour moins aimer les gens. Parce que Matthieu 5 dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Or, qu'est-ce qui nous blesse le plus souvent? C'est les gens qui nous entourent, c'est les membres de nos familles. C'est eux, parce qu'on est souvent avec eux. On est souvent en relation et souvent les chocs viennent de là. Or, là où même Dieu nous a placés pour qu'on soit instrument de salut, on peut devenir un instrument de jugement par notre colère, par notre, comment dire, par le fait qu'on n'a pas pardonné certaines choses, ou bien par le fait qu'on les considère comme des ennemis, alors que nous devons les considérer comme les gens de Ninive, les gens qui ne savent pas différencier leur gauche de leur droite. C'est ce que Dieu a dit à Jonas. Mais ces gens-là, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils sont eux-mêmes esclaves de Satan. Quand Jésus a pardonné, il a dit, quelle phrase il a cité? Il a dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas. Au fait, c'est la même logique de Ninive qu'on rencontre chez Jésus à la croix. Mais c'est des gens qui ne savent pas distinguer leur gauche de leur droite. Pourquoi? Moi, j'ai l'habitude de dire, déjà un païen, un pécheur, souffre d'abord d'être esclave du diable. Pourquoi moi, le chrétien, je vais encore le détester? Pourquoi moi, le chrétien, je vais encore haïr quelqu'un qui est déjà en souffrance parce qu'il est esclave du diable? Ce n'est pas logique. Maintenant, quelqu'un dira, mais à cause de lui, j'ai perdu telle chose. Oui, mais si j'ai un Dieu tout-puissant, est-ce qu'un homme extérieur peut m'empêcher de vivre le bonheur? Impossible. Puisque mon Dieu est plus grand que tous. C'est ce que le Seigneur dit dans Jean 10. Il dit, mon Père est plus grand que tous. Mes brebis sont dans sa main. Et personne ne peut les ravir de sa main. Et il y rajoute, parce que mon Père est plus grand que tous. Alors donc, admettons qu'un tel soit sorcier, qu'à cause de lui, j'ai tel problème. Si c'est encore vérifié, parce qu'on ne sait pas, peut-être que le problème qu'on a, ce n'est pas la personne. Donc, admettons qu'un tel m'a escroqué, tel papa m'a mal parlé, telle maman m'a fait ceci. Mais tout ça n'est rien si nous sommes dans la main du Seigneur. Parce que dans la main du Seigneur, personne ne peut nous toucher. Si quelqu'un nous touche, c'est le Seigneur qui nous touche. C'est le Seigneur qui l'utilise. Et c'est ce que David avait dit quand Shimei l'injuriait. Les gens voulaient tuer Shimei. David a dit non, laissez-le. S'il m'injurie, vous voyez, moi, il y a toute une armée autour de moi. Le monsieur, il est tout seul. Il se permet de prendre du sable, me jeter. Il se permet de prendre des cailloux, me jeter, de me cracher dessus. Quelqu'un qui est tout seul, s'il se permet de m'injurier comme ça, c'est Dieu qui l'a envoyé m'injurier parce que, voilà, c'est Dieu qui le laisse. Il faut que je sois humilié parce que je me suis mal comporté. David a considéré que c'était Dieu qui permettait. Il ne s'est pas dit, bon, tiens, je vais régler le compte de Shimei. Non, il a considéré que c'est Dieu qui permettait. C'est ce qui fait de lui l'homme selon le cœur de Dieu. Et nous sommes souvent déstabilisés par les membres de nos familles. Parce qu'ils sont tout proches, ils sont là. On a des attentes. Vous savez, quand les gens nous entourent, on a des attentes. On se dit, bon, comme il me précède, il va ouvrir la porte. Mais, puisque tu dis, mais il te précède pour aller à la maison. Mais arriver à la porte, oh, je suis fatigué, ouvre toi-même. Ah, mais ça va énerver. On se dit, mais tiens, elle aurait dû penser à telle chose. Il aurait dû penser à telle chose. Et l'attente n'est pas exaucée, c'est la colère. Et quand ça se répète souvent comme ça dans notre entourage, on finit par avoir un cœur imperméable aux gens même pour qui ça devait être très perméable pour faire passer le salut. C'est ça le piège de l'ennemi. Et le Seigneur nous dit, considérons comme Jonas, des gens, les gens de Ninive, des gens qui ne savent distinguer leur gauche de leur droite. Vous savez, le diable va nous donner toutes sortes d'arguments en disant, mais ils ont écouté la parole, j'ai déjà parlé, j'ai fait ceci. Oui, sache que tu as été appelé pour le salut, tu n'as pas été appelé pour le jugement. Tu as été appelé pour la bénédiction de ta famille, tu n'as pas été appelé pour son jugement. Tu n'es pas le juge de ta famille, tu es le sauveur de ta famille. C'est ça qu'il faut retenir, bien-aimé. C'est très important, puisque nous sommes bénis de toutes les bénédictions par le Seigneur. Commencez, il y en a qui ont des blocages liés à tout ce qu'on leur a fait par une marâtre ou bien un beau-père à une telle époque. Mais non, considérez, bien-aimé, que ce soit les tantes, les beaux-pères, les marâtres, tous ces gens-là qui nous ont fait parfois du mal autrefois, Dieu nous a appelés pour leur salut. Voilà. Et si nous répondons au mal par le bien, c'est d'autant plus que la puissance de Dieu se manifestera pour leur salut. Et c'est nous qui serons contents de voir ça. Quand tu vois quelqu'un de sauvé, tu vois un nouveau collègue, ça fait de la joie. Mais pourquoi le salut de nos membres, de nos familles sont effrénés? C'est parce que nous ne prions pas suffisamment. Parce que nous sommes bloqués. Et vous savez, il y a des gens qui prient beaucoup pour la conversion de leurs enfants, mais qui sont en colère par rapport à leur sœur ou à leur frère. Qui prie pour la conversion de sa fille, mais il est ou elle est en colère par rapport à son fils. Mais Dieu est quand même juste. Tu as deux enfants. Tu pries pour un, tu ne pries pas pour l'autre. Est-ce qu'on pense qu'une telle prière peut être exaucée? Non. Donc il y a beaucoup de blocages qu'on s'est créés. On est le frein de beaucoup dans nos familles parce que nous sommes dans l'injustice. Nous prions pour un enfant, nous ne prions pas pour l'autre. Nous prions pour un frère, nous ne prions pas pour l'autre. Nous prions pour une sœur, nous ne prions pas pour l'autre. Parce qu'il y a eu des frictions autrefois, parce qu'il y a eu des choses, ou bien parce qu'il paraît trop méchant, parce qu'il blasphème contre Dieu, mais Dieu a dit que le blasphème contre lui sera pardonné. Et je sais qu'en tant que chrétien, quand on entend quelqu'un injurier le Seigneur ou bien se moquer du Seigneur, je sais que ça nous fait mal. Mais c'est ce même Seigneur qui demande de supporter. Et c'est ce même Seigneur qui dit, ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc nous devons, et c'est pourquoi j'aime aussi le passage de Romains 12 qui dit, ne vous laissez pas vaincre par le mal, mais soyez vainqueurs du mal par le bien. Donc notre victoire, c'est que quand quelqu'un te veut du mal, tu arrives à payer pour lui, c'est que tu l'as battu, tu l'as vaincu. Parce que si tu n'arrives plus à prier pour lui, c'est qu'il t'a vaincu. Parce qu'il a rendu ton cœur dur. Il a réussi son coup. Pour le vaincre, il faut être capable de prier pour lui. Mais ça ne viendra pas de nous. On demande l'aide du Seigneur. On dit, Seigneur, là, mon cœur est fermé par rapport à une telle personne. Or, je devais être moi le canal pour son salut. Seigneur, je suis dans la défaite. Viens à mon secours. Et le Seigneur te donnera un cœur d'amour comme lui l'a eu à la croix pour dire pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, comme il a eu pour les gens de Ninive. Et tu pourras prier tranquillement pour la personne, pour son salut, parce que le cœur du Seigneur agit en toi. Mais si tu ne réagis pas, tu continues dans un état de fermeture parce que la personne a été méchante, de fermeture parce que la personne est mauvaise, hypocrite. Tu bloques aussi tes autres prières, bien-aimé. Tu bloques tes autres prières pour les autres membres de famille. Tu les bloques. Parce que Dieu considère que tous ces gens-là, c'est la même famille. C'est pourquoi le Seigneur nous demande de bénir et de ne pas maudire. Parce qu'on a plusieurs états dans notre vie ou bien même dans la journée. Et comme on a plusieurs états, le Seigneur nous donne un conseil fixe. Bénissez seulement. Parce que ça serait contradictoire de maudire et puis de bénir après et de maudire après. Rien ne va fonctionner. Ou sinon le mal. C'est tout. Dieu t'a suscité pour sauver. Mais à un moment, tu maudis. À un moment, après, tu pries encore qu'il soit converti. Il y a une contradiction. Souvent, beaucoup de missionnaires ont échoué en mission. Pourquoi ? Ils arrivent en mission dans un pays, ils détestent les gens du pays, parce que c'est normal. Quand tu changes de pays, les gens ne sont pas les mêmes que dans ton pays. Les habitudes ne sont pas les mêmes. Et tu vas trouver forcément les gens plus mauvais que dans ton pays, parce que quelque part, toi, si tu étais devenu dans la sauce de ton pays d'origine, tu ne te rends pas compte des bêtises que tu faisais ensemble, donc les bêtises de toute la population, et toi-même dedans. Mais en changeant de pays, tu as l'impression que, voilà, tu te retrouves chez des extraterrestres. Mais tu es envoyé en mission. C'est pour que tu aies un cœur de salut pour tous ces gens-là. Mais quand tu arrives quelque part, tu commences à... On a vu avec Jonas. Il ne voulait pas parce qu'il n'aimait pas les gens de Ninive. C'est pourquoi il ne pouvait pas être une bénédiction, sauf quand Dieu s'est imposé sur lui. Mais Dieu ne s'imposera pas toujours sur nous comme il a fait pour Jonas. Il avait une relation avec lui, on ne sait pas quelle relation. Mais nous bloquons le salut des membres de nos familles à cause de nos attitudes de colère, de nos attitudes de jugement surtout. De jugement, de condamnation. Dieu ne nous appelle pas à juger, à condamner. Il nous appelle à sauver. Et on pourrait excuser nos attitudes de jugement en manifestant de la colère envers ceux qui sont officiellement chrétiens dans nos familles et qui se comportent mal. C'est faux. Dieu ne nous demande pas ça non plus. Il nous demande de bénir tout le monde et même les chrétiens. Nous bloquons nos prières pour les familles à cause de nos attitudes dans la famille. Nous devrions faire comme le Seigneur. Nous sacrifier pour nos familles. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Travailler à cela, dans la prière, dans le sacrifice. Le sacrifice, c'est quoi aussi ? C'est être dans la vérité. Quand la famille veut t'entraîner dans le compromis, tu refuses. La vérité. c'est la vérité qui sauve. Parce que la vérité va t'apporter les conflits, c'est vrai. La vérité va créer encore des divisions, c'est vrai. Mais c'est pour construire plus tard. C'est pour unir dans la pureté, dans la solidité. Mais alors que le compromis, ça va apporter une entente d'un temps. Mais ça ne va pas apporter la vraie unité. Ça fait partie des sacrifices, la vérité. Rester dans la vérité. Maintenant, beaucoup comprennent mal le fait qu'on dise rester dans la vérité. Ils utilisent ça pour juger les autres. Toi, reste dans la vérité. Quand tu veux dire la vérité aux autres, tu le dis, mais souviens-toi que tu dois le dire en douceur, dans le but de reprendre et de construire l'autre, pas dans le but de le juger, de le condamner et de le rejeter, mais c'est dans le but de le sauver. C'est pourquoi la vérité existe. La vérité qui concerne le jugement, c'est à la fin des temps. Tant que la fin des temps n'est pas encore là, la vérité est là pour sauver. Il faut qu'on s'en souvienne. Et parfois, quand on redresse les membres de nos familles, nous le faisons avec une attitude de dédain. On rabaisse les gens. Et les gens dans leur cœur disent, voilà un chrétien, lui-même il est orgueilleux. Et nous tournons en rond, rien ne change. La Bible est claire, quand tu veux répandre ton frère, fais-le de sorte que toi-même tu ne pèches pas en faisant ça. Parce qu'en reprenant parfois certaines personnes, on peut le faire avec une attitude d'orgueil, une attitude de suffisance. Et cette odeur-là, ça sort. Hein, l'orgueil a une odeur forte. Mais celui, vous savez, comme il y a certaines personnes, même quand ils sont sales, ils ne se sentent pas mauvais, ils ne se sentent pas sales. Mais l'orgueil, c'est pareil. Les gens orgueilleux ne réalisent pas qu'ils sont orgueilleux. Voilà. Mais les autres sentent ça. Et ça crée la répulsion. Demandons l'aide du Seigneur pour supporter les désagréments des membres de nos familles et continuer à rester dans la prière, dans l'obéissance à la parole, un instrument de salut pour eux. Lisons aussi Luc au chapitre 15. À partir du verset 11. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or, voilà le passage qui nous intéresse le plus. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. Première leçon qu'on tire de cette affaire, c'est que le salut de la famille n'a pas de prix. Vous savez, dans les dessins animés sur cet épisode-là, parfois dans les dessins animés, dans la mise en scène, ils rajoutent certaines choses qui ne sont pas écrites dans la Bible, mais qui peuvent nous interpeller. Que répond le père à son fils aîné quand il se plaint concernant l'accueil qui a été réservé au fils cadet? Il dit, mon fils, pour que ton frère grandisse, toutes mes richesses pouvaient être dilapidées pour ça. Que ton frère grandisse et comprenne, c'est plus important que mes richesses. Et je pourrais refaire ça encore pour toi. C'est-à-dire que ce père-là, le plus important, c'était de récupérer un fils saint d'esprit. Un fils qui a compris, un vrai fils. Et devant ça, l'argent, c'était rien du tout pour lui. Entre un fils mature et l'argent, son choix était clair. C'est la même chose pour Dieu. Que quelqu'un soit sauvé et les richesses de la terre et les souffrances de la terre, le choix de Dieu est clair. Et c'est ce que nous ne comprenons pas. Parfois on se dit, mais comment Dieu nous amène à nous sacrifier comme ça dans les jeûnes, dans les prières, pour des gens mauvais comme ça? Mais oui, c'est son amour. Qu'il sauve quelqu'un pour lui, c'est plus que tout. L'or et l'argent, c'est rien du tout pour Dieu. Ce qui est important pour Dieu, c'est l'âme de l'homme. C'est l'homme qui intéresse Dieu. C'est l'homme qui a été créé à l'image de Dieu. Dieu aime l'homme, bien-aimé, il faut comprendre ça. Ce garçon, l'aîné, n'avait pas encore compris à quel point son père devait les aimer, les deux. Parce qu'il ne se l'appliquait pas lui-même. C'est la preuve qu'il n'avait pas compris. Parce qu'il était obéissant, mais il ne profitait pas de bonnes choses qu'il y avait chez son père. C'est qu'il devait être réservé, il devait craindre son père, avoir peur de son père, au lieu de bénéficier, d'expérimenter, de vivre son amour. Donc il n'avait pas compris l'amour de son père pour eux. Il était plus dans une logique d'un père chef qui donne des ordres. Or, ce n'est pas des ordres pour faire du mal, c'est des ordres pour te faire grandir, c'est des ordres d'amour, parce que le père veut un bon avenir pour toi. Mais lui, le grand fils, le fils aîné, considérait ces ordres-là comme une sorte de pression, au lieu de considérer ça comme des ordres d'amour. Et finalement, le salut de son frère a été bénéfique pour lui-même, parce que lui aussi a été sauvé le même jour, parce que jusque-là, il considérait son père comme un dictateur. Mais ce jour-là, devant l'amour de son père pour l'autre fils, il a dû comprendre c'est quoi l'amour de papa. C'est à ce moment, donc c'était le salut pour les deux. Parfois, nous qui sommes sauvés, nous oublions c'est quoi l'amour de Dieu. Parce qu'on est dedans, on se comporte bien, même quand on fait des péchés, on demande pardon, et on oublie c'est quoi l'amour de Dieu. Et donc on est comme encore perdu. Parce que sans l'amour de Dieu, tu es perdu. On se croit bon parce qu'on vient prier, parce qu'on fait de bonnes choses. Mais on est perdu en ce moment-là où on se croit bon. Parce qu'on est sauvé par grâce, par amour. Et quand à chaque fois, autour de nous, Dieu manifeste son amour pour un mauvais, c'est un salut pour nous en même temps. Parce qu'on se rend compte encore du fait que nous-mêmes, on avait été sauvés par amour. Ça nous rappelle cela. Mais quiconque résiste à l'amour de Dieu pour les autres, résiste à son propre salut. Parce qu'il se croit quelque part sauvé par ses œuvres. Donc il n'est pas sauvé, parce qu'on est sauvé gratuitement par grâce. Donc ce jour-là, le fils aîné est devenu encore fils de son père véritable, parce qu'il a mieux compris c'est quoi le lien qui l'unit à son père. À partir de ce que son père a fait pour le fils cadet, il a compris le lien aussi qui l'unissait à son père, alors qu'il ne le comprenait pas encore. Donc pendant que Dieu nous demande de supporter les membres de nos familles, il nous fait comprendre en même temps ce que lui l'a supporté pour nous. Parce qu'on ne peut pas, on a beau prêcher par rapport à l'évangélisation, mais on ne peut pas supporter le fardeau du monde entier comme on supporte le fardeau direct des membres de nos familles. Parce qu'ils sont avec nous tout le temps, les conflits c'est tous les jours. Même dans la famille élargie, c'est tous les jours. Et donc, Dieu va nous amener vraiment à apprendre à supporter. Comme ça, on apprend en même temps son amour pour nous, comment il a supporté quotidiennement nos bêtises, nos péchés. C'est cela, bien-aimé. On va expérimenter le véritable amour de Dieu. Quand nous-mêmes, on va se laisser utiliser par Dieu pour sauver les autres. C'est cela, bien-aimé. Une autre leçon, c'est quoi, bien-aimé? C'est que l'amour, c'est aussi la vérité. Et on ne fait pas de compromis. Le papa a laissé son fils s'en aller. Il ne s'est pas imposé pour dire, tu es mon fils, tu restes chez moi. Non. Il a dit, peut-être qu'il comprendra quand il sera loin, mais je ne peux pas m'imposer. Je le laisse faire. Moi, je reste dans la vérité, mais je veux garder mon fils dans mon cœur. La preuve, c'est que quand le fils revenait, le papa l'a vu de loin. C'est qu'il attendait toujours. Mais nous, parfois, on peut être amené à ne plus attendre nos bien-aimés. On les considère perdus pour toujours. Et si tu n'attends pas quelqu'un, il ne viendra jamais non plus. Or, c'est toi que Dieu a choisi pour l'attendre, pour qu'il revienne. Rappelons-nous de notre positionnement en tant que chrétien dans nos familles. Ce garçon-là, l'aîné, était venu avec sa propre justice. Mais quand tu es le fils de quelqu'un, ce n'est pas parce que tu l'obéis, c'est parce que tu es né. Tu es né de lui. C'est gratuit être le fils de quelqu'un, ce n'est pas payant, c'est gratuit. Ce n'est pas parce que tu as été correct, c'est parce que tu es né dans cette famille-là. C'est gratuit. Mais le fils aîné a voulu mériter ça. C'est pourquoi il a voulu faire mériter aussi le fils qui était parti. Non, l'amour de Dieu est inconditionnel. Habituons-nous à ça. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais habituons-nous au fait que l'amour de Dieu est inconditionnel. Il aime les bons, il aime les mauvais. Et il est écrit même que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donc une fois pour toutes, acceptons ça et portons nos familles dans la prière. Que ce soit femme, que ce soit mari, que ce soit enfant, que ce soit tante, que ce soit oncle, parents, grands-parents, petits-enfants, portons-les dans la prière avec un amour infaillible. Et c'est nous qui serons dans la joie de dire comme Josué, moi et ma maison, nous sommes en train de servir le Seigneur. On verra les conversions rapides. Les conversions sont bloquées parce que nous ne sommes pas justes dans notre façon de fonctionner. On fait des compromis, parfois, pour avoir l'amour charnel des membres de famille. On fait des compromis en justifiant nos colères parce que les autres ont trop fait de mal et nous bloquons leur salut. Non, Dieu a mis la famille autour de nous pour nous éprouver, pour être la source de notre perfectionnement. Maintenant, quoi qu'il arrive, nous devons garder un cœur d'amour, de paix, sachant que nous aussi, nous avons été sauvés de la même manière. Et prier pour les membres de nos familles. Ne nous trompons pas, bien-aimés. Si on n'est bien qu'avec son frère, on n'est pas bien avec sa sœur, même son frère, ton frère ne se convertira pas. Parce que tu es injuste. Voilà. Il faut qu'on soit bien dans nos cœurs avec tous. Prier de la même manière pour tous. Je sais que quand on a subi des chocs, des blessures, ce n'est pas facile. Je le sais. Alors, demandons l'aide du Seigneur. Voilà. Le Seigneur est prêt à nous donner le même cœur qui a fait dire à Étienne, parce qu'on va dire, mais c'est le Seigneur, mais Étienne aussi a fait la même prière que le Seigneur. Le Étienne, il est lapidé par les gens, il dit, Seigneur, ne leur retiens pas ce péché. Voilà. Donc Étienne, s'il a pu faire ça, c'est Dieu qui lui en a donné cette capacité, c'est la capacité. Nous aussi prions que Dieu nous donne la capacité d'aimer ceux qui nous font du mal, et comme c'est souvent fréquent dans la famille, d'aimer. Parfois dans la famille, il y a un frère qui fait du mal à tout le monde et tout le monde le déteste et nous on va s'associer à ceux qui le détestent. Non. Nous devons dire, nous devons toujours aimer et prier pour ce frère-là. Il y a parfois des parents méchants. Vous savez, les parents actuels, souvent ils soutiennent les enfants qui n'ont pas réussi. Et ceux qui ont réussi, ça devient leurs ennemis. C'est comme s'ils reprochaient à ceux qui ont réussi d'avoir réussi alors que les autres n'ont pas réussi. On peut être face à des parents pareils. Nous devons toujours les porter dans la prière. Nous sommes le canal de salut pour chaque membre de la famille. Pour chaque membre de la famille. Et je rajoute dans la famille les amis, les gens avec qui nous vivons depuis longtemps, que les gens que nous côtoyons depuis longtemps. Nous devons les porter, nous ne devons pas les oublier. Nous sommes les premiers à pleurer quand nous apprenons qu'ils sont morts. Ah, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est le moment de faire quelque chose. C'est le moment de se réveiller. Dieu nous confie nos familles. Réveillons-nous et entrons dans la lutte pour le salut de chaque membre au nom puissant de Jésus. Quand tu es dans la journée, que tu te souviens d'un membre de la famille, c'est Dieu qui te parle pour prier pour lui. Ce n'est pas pour aller chercher dans les photos. Ou bien, c'est pour prier pour la personne. C'est pour ça qu'il te fait souvenir ça. C'est très important, bien-aimé. Dieu n'a pas de temps à perdre. Il veut tellement sauver que chaque seconde est importante. Et chaque pensée qui vient dans la tête a un objectif. Il faut s'en souvenir. Donc, prions que le Seigneur nous aide à supporter les membres de nos familles, quels qu'ils soient. Parfois, certaines femmes finissent par considérer leur mari comme des étrangers et vice-versa. Prions que Dieu nous demande, nous donne de supporter et de faire comme lui a fait pour nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, au nom de Jésus, nous voulons pratiquer cette promesse, expérimenter cette promesse. Crois et tu seras sauvé, toi et ta famille, Seigneur. C'est vrai que nos cœurs sont souvent choqués, blessés par les attaques multiples que nous subissons dans nos familles. Parfois, les déceptions aussi, les injustices, le parasitisme. Il y en a qui veulent parfois nous exploiter. D'autres médisent. Oh Seigneur. Il y en a d'autres aussi qui blasphèment contre toi, sur toi. Nous voulons, Seigneur, faire comme toi-même. Tu as fait pour les gens de Ninive. Malgré ça, tu les as aimés pour les sauver, Seigneur. Malgré ça, tu les as aimés et envoyé Jonas. Tu t'es imposé sur Jonas pour aller leur parler. nous voulons garder un cœur libre, un cœur tranquille. Seigneur, que nous puissions dire comme toi, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, Seigneur. Nous refusons d'être des instruments de jugement. Nous voulons être des instruments de salut. Aide-nous à accepter les souffrances qui viennent du fait que, étant chrétien, les gens nous malmènent de tous côtés. Les gens profitent pour nous accuser, pour nous calomnier, pour nous dépouiller. Aide-nous, Seigneur, à accepter les souffrances, comme Paul a dit à Timothée, accepte les souffrances d'un bon soldat. Les souffrances liées aux mauvais témoignages issus des comportements de certains membres de nos familles, ces mauvais témoignages qui salissent toute la famille, Seigneur. Aide-nous à rester imperturbables par rapport à tout ça, à garder un cœur d'amour pour les porter dans la prière, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, fais de nous de véritables intercesseurs, que nous ne choisissons pas pour qui prier, mais que nous prions pour tous, sans exception. Que nous ne choisissons pas, Seigneur. Purifie nos cœurs au nom de Jésus-Christ, afin que nos cœurs ne fassent pas de distinction, car tu aimes tous les hommes, Seigneur. Tu aimes tous les hommes, tu aimes les membres de nos familles, Seigneur. C'est pourquoi tu veux que nous puissions les porter, Seigneur. Purifie nos cœurs parce que il y a parfois des problèmes de manque de pardon, des blessures anciennes. Libère-nous, Seigneur. Libère-nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Que nous puissions considérer ce que ce papa a dit à son fils aîné, mais toi, tu es tout le temps avec moi. Seigneur, nous aussi, nous sommes tout le temps avec toi. Tu es immensément riche, tu es tout puissant. Pourquoi se plaindre au point d'être fermé par rapport aux gens qui ne tiennent pas compte de ta parole? On voit parfois des gens qui viennent à l'église, qui écoutent la parole et qui, à la maison, se comportent à l'opposé et on se met en colère contre de telles personnes. On se dit qu'ils profitent du système, ils profitent de toi, mais ce n'est pas notre problème, Seigneur, c'est ton problème. Aide-nous, Seigneur, à rester à notre place, Seigneur, à te laisser le jugement, à nous l'amour pour le salut des autres, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, change-nous, Seigneur. Entends le cri de mon cœur qui implore ta bienveillance. Fais tomber mes offenses, fais luire sur moi ta face. De mes lèvres un pur au grand roi. Oh oui, j'ai péché contre ta loi. Et mes crimes et mes fautes éternelles, tu peux les effacer, Seigneur. Purifie mon cœur, sanctifie ma vie. Ô Saint d'Israël, je t'en prie, purifie mon cœur, purifie mon cœur, purifie mon cœur, sanctifie ma vie. Ô Saint d'Israël, je t'en prie, reçois notre prière. Reçois notre prière, fidèle et tendre Père, pour ce précieux service, agrée nos sacrifices. Reçois notre prière, fidèle et tendre Père, pour ce précieux service, agrée nos sacrifices. Par le sang de ton Fils Jésus, Père, oublie nos iniquités. Que nos mains purifient et se lèvent pour contempler ta royauté. Purifie nos cœurs, sanctifie nos vies, au sein d'Israël. Nous t'en prions, purifie nos vies.